Oui, donc l'idée, c'est après ce tour d'horizon et en particulier le constat de l'ampleur des changements qui ont lieu en Arctique, réfléchir à ce que ça implique, la manière dont ça peut aussi nous affecter en termes de perception, parce que c'est un des endroits où le changement climatique est visible dans les paysages, où il aura des répercussions géopolitiques majeures, et puis il affecte aussi plus directement des peuples qui en dépendent directement. Et je voulais donner la parole à Michel pour démarrer, par rapport à justement votre expérience de témoignage finalement, de donner à voir ces paysages superbes, cette vie au plus près de la nature, dans des conditions parfois très difficiles. Et quelles sont les réactions du public lorsqu'il voit en fait les documents photographiques que vous ramenez? Qu'est-ce que ça suscite?
C'est vrai que je suis un photographe témoin, je ne suis pas scientifique, je suis un observateur qui m'a permis de vérifier entre 1995 et 2005, par exemple, où je suis allé au Groenland à plusieurs époques, en été, en hiver, hein, j'y suis retourné 8 fois, que la banquise avait reculé dans ces 10 ans de plusieurs centaines de kilomètres. Preuve en est, en 1995, j'avais répondu à l'appel d'un ami qui voulait photographier. Il voulait que je photographie le plus grand traîneau à chiens jamais construit pour être dans le livre des records, donc c'était un peu gadget, mais bon, il s'est fracturé au bout de 52 mètres, je crois, et les 26 personnes à bord tirées par 156 chiens et une vingtaine de mushers, voilà, on a fait comme on a pu. Donc je suis un témoin, c'est vrai que vous avez pu voir le type d'image que je véhicule, avec lesquelles je témoigne depuis 26 ans maintenant. Je montre la beauté. Hein. Moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas d'angoisser les gens. Au contraire, c'est d'être le témoin de la beauté de ce monde, de tout ce qui nous entoure comme richesse artistique, parce que la nature est artiste, je le dis régulièrement, et rassure aussi du fait que, de temps en temps, parfois, dans des circonstances où on prend le temps de contempler, de s'installer, de casser le rythme un peu, on va dire, que finalement, on peut se sentir en harmonie au milieu de tout ça. On peut se sentir petit quand on est face à la baie de Disco, face au glacier, le Kongsfjord, hein, qui est le plus gros débiteur d'iceberg de l'hémisphère nord. On se sent petit, mais à un instant, on peut se sentir grand et faire partie d'un tout. C'est pas religieux, hein, c'est vraiment un sentiment... humain, personnel. Donc,
je voulais rebondir là-dessus parce que on parle souvent peu des émotions quand on est scientifique, on essaie de les tenir à distance, mais souvent quand on partage nos connaissances scientifiques, le constat de changements qui ne sont pas perceptibles dans la vie quotidienne mais qu'on donne à voir, quand on explore ces futurs plausibles, que ce soit pour le climat, la biodiversité, les modes de vie, les enjeux sont énormes et parfois ça suscite des émotions écrasantes. Et puis ceux qui vivent au contact direct, par exemple des glaciers, je l'ai entendu près de Grenoble, ils expriment un sentiment de perte, et je l'ai aussi entendu au Groenland, un sentiment de perte en disant « moi j'ai grandi avec ça dans mon paysage, c'est un glacier, d'ailleurs il ne me rend pas service en rien, mais j'y suis attachée et j'éprouve un sentiment profond de perte irréversible et d'impuissance, ce qu'on appelle la solastalgie, par rapport à ces changements-là. Est-ce que vous en avez été le témoin aussi ?
Oui, alors je veux vite revenir sur le début de la conférence ce matin à propos de la jeunesse groenlandaise, hein, de la nouvelle génération qui n'est pas du tout contente, enfin qui n'est pas contente, qui n'est pas heureuse. Hein. J'ai assisté malheureusement il y a une dizaine d'années à un drame à Hanak, dans le nord-côte nord-ouest du Groenland, Thule, Kanak, l'ancienne capitale des rois de Thule, d'un drame d'un jeune qui s'est suicidé parce que c'est très difficile pour eux. Hein, économiquement, de bouger, profiter d'Internet, c'est une chose, et de communiquer avec sa famille qui est à Nuuk, à 1000 km, c'est une chose, mais voyager, faire des études, voilà, donc il y a un grand vague à l'âme chez ces populations. Je veux faire l'assaut au Canada avec Sheila Watt-Cloutier, qui est une militante Inuk, québécoise, hein, et qui a cette solastalgie très profondément ancrée maintenant, parce que ils ne sont pas responsables de tout ça. Et on leur enlève leur culture, leur tradition et surtout leur moyen de vivre et leur moyen de vivre, d'exister et de continuer à perpétrer tout ça. C'est la chasse pour ces gens-là. Et à l'allure où la banquise fond et va empêcher au moment de la débâcle aux chasseurs d'aller continuer à perpétrer leur tradition, c'est-à-dire d'aller chasser le narval, le phoque, eh bien, il y a une grande solastalgie, il y a une perte d'identité totale de ces populations. Et je parle juste de cet exemple de Sheila au Canada.
Et par rapport à ces enjeux qui se passent dans l'Arctique, Miga, vous disiez que c'est difficile en fait de finalement motiver un intérêt dans les médias pour aborder les questions complexes, les questions de fond, au-delà un peu de l'image d'Épinal ou d'un traitement très superficiel ou uniquement sous le buzz en fait. Pourquoi ?
La plupart du temps, mais je pense que c'est pareil pour vous du côté scientifique des sciences dures, hein, quand on nous demande de parler de l'Arctique et de l'Antarctique, on a 1 minute 30 à tout casser. Quand on a un peu de chance, 4 minutes. Quand on a un peu de chance dans la presse écrite, on peut avoir 7000 signes. Là, avec le Figaro hier, j'ai eu 10 000, c'est exceptionnel. Et en vrai, même en 10 000, en fait, ce qu'on nous demande, c'est de faire un petit peu comme les politiques le matin quand ils font une interview de 8 minutes. Alors en 8 minutes, vous n'avez pas 8 sujets. Ben là, c'est pareil, en 10 000 signes, il faut parler des routes maritimes, de la fonte des glaces, de la façon dont les Groenlandais vivent les choses, du Conseil de l'Arctique, j'en passe et des meilleurs. Donc en fait, on n'a pas le temps de balancer des messages, et en fait, quand on essaie quand même de balancer des messages, ben on se retrouve à faire... moi, j'ai le sentiment, j'ai une solastalgie, on va dire, intellectuelle, j'ai l'impression de faire de la perte intellectuelle quand je fais passer les messages, parce que finalement, il manque toujours quelque chose. C'est jamais assez nuancé, c'est assez caricatural, parfois.
Quelles sont les pires caricatures ?
Oh là là. Alors la pire caricature, c'est évidemment le fait que l'année prochaine, on va avoir une bataille navale entre les États-Unis et la Russie au milieu de l'océan Arctique. Alors ça, on l'a chaque année. Tous les ans, il y a des canards comme The Economist, comme Financial Times, qui ne sont pas des canards déconnants, qui émettent un papier avec voilà, les grands risques géopolitiques de l'année prochaine. Depuis 2012, c'est-à-dire depuis le dernier record de la fonte de glace de la banquise l'été en Arctique, on a systématiquement, tous les ans, au moins 2 ou 3 canards internationaux comme ça qui placent l'Arctique comme étant le risque majeur géopolitique de l'année qui vient. Mais on a d'autres choses.
Sans creuser en fait les tenants, les aboutissants, sans construire une réflexion aussi stratégique, par exemple vis-à-vis de l'Europe et de ses relations avec l'Arctique.
C'est pareil pour l'Europe en fait. On a un véritable problème qui est qu'il y a des pays scandinaves qui disent si l'Europe doit parler de l'Arctique, c'est selon notre vision des choses. Il y a d'autres pays européens comme la France, l'Allemagne, la Hollande, la Pologne qui sont observateurs au Conseil de l'Arctique qui disent « nous, on a une autre vision des choses ». Et puis maintenant, on a même des États baltes, je les ai mentionnés, mais aussi la Hongrie, la République tchèque, voire même la Bulgarie, la Grèce, qui disent « nous, on voit encore les choses d'une manière différente ». Donc en fait, à 28, là encore, alors qu'on pourrait tous s'unir autour du discours sur le changement climatique et sur la lutte pour essayer de limiter la fonte des glaces, pareil, le fait de parler d'enjeux stratégiques, ça fait que finalement, personne ne peut se mettre d'accord, parce qu'il y a toujours l'enjeu gazier ici, l'enjeu russe militaire là-bas, il y a toujours la route de la soie chinoise qui maintenant pénètre beaucoup, les enjeux de data center, et ainsi de suite, qui font que chacun met son intérêt avant les autres.
Et donc quelque part, on voit que du côté de l'Arctique, il y a à la fois donc, cette beauté, ces modes de vie précieux, rares, ces écosystèmes fragiles, pour certains d'entre eux, résilients pour d'autres. Il y a cette difficulté à se projeter dans finalement ce qu'on pourrait voir comme une stratégie un peu coordonnée, une gouvernance aussi internationale, alors que c'est aux avant-postes, alors que les changements, les bouleversements sont à l'œuvre dès aujourd'hui. Et d'un point de vue plus de la production de connaissances scientifiques, on voit qu'il y a un effort d'observation, il y a un effort d'investissement aussi dans la production de connaissances, parce qu'il y a une prise de conscience du fait que ce qui se passe en Arctique ou dans les régions polaires, a une importance planétaire. Alors je me tourne en fait vers vous, Angélique. En termes, par exemple, de surveillance de l'état du climat, en termes d'enjeux d'observation, comment est-ce que vous pensez que les travaux qui sont faits sur ces régions, les régions arctiques par exemple, contribuent à renforcer la prise de conscience vis-à-vis du changement climatique plus largement ?
Bonne question, je pense que... Alors, je ne suis pas du tout chercheuse sur les zones polaires, hein, à la base.
Mais...
Je pense que l'Arctique, effectivement, c'est ce qu'on appelle un hotspot du changement climatique. Donc, c'est une des régions où on voit les hausses de température les plus importantes, si je ne me trompe pas, autour de 6 degrés, peut-être que je dis une bêtise.
C'est 2-3, mais dans l'avenir, oui, ce voilà. sera plusieurs fois le niveau global, oui.
Et par ailleurs, on a un effet très visible aussi avec la perte de la glace de mer, qui est assez conséquente et qui parle bien également aux personnes. Et ça, c'est des choses que, qui sont peut-être plus visibles que de montrer sur un graphique la hausse de température des océans, de leur contenu de chaleur, où on voit simplement une courbe qui va s'élever avec le temps. Quand on voit une image satellite de l'étendue de la glace qui diminue progressivement, c'est quand même assez marquant.
Oui, Gaëlle, tu veux rebondir là-dessus ?
Je vais bien essayer de compléter. Alors moi, j'ai la chance de travailler, en fait, dans, enfin, mon domaine d'expertise est extrêmement facile à vulgariser, ou en tout cas, il y a une attente par rapport à ça, et il y a une attente, je pense, d'un attrait d'épaule qui... Il y a un côté terre d'aventure.
Frontière des connaissances.
Frontière des connaissances, mais aussi... il fait froid, il fait nuit, c'est un petit peu inhabituel, c'est très beau. Quand même, la première chose, c'est que c'est très beau. C'est un endroit qui est magnifique. On y est bien, même s'il y fait froid. Donc, il y a, je pense, une curiosité, une appétence par rapport à l'image et par rapport à cette espèce d'aventure humaine d'aller là-bas, dans laquelle on s'identifie. Donc, c'est un sujet qui amène de l'intérêt. C'est aussi un sujet qui amène énormément de confusion. La vulgarisation qui me semble... après, c'est peut-être moi qui en parle mal, mais il m'arrive de passer au téléphone pendant 20 minutes avec un journaliste, et puis quand je vais lire sa prose, je vais me rendre compte qu'il a confondu calotte polaire et banquise. Alors que j'ai passé 5 minutes à expliquer que c'était très différent et que ça n'avait rien à voir en termes climatiques, qu'on parlait de deux objets géophysiques qui étaient différents, il n'y avait rien à voir. Pour reprendre 2010, grande canicule sur le Groenland, la presse française, plusieurs titres, je ne me souviens plus, il y avait Le Figaro notamment, qui titrait que le Groenland avait fondu.
En entier.
Ah oui, le Groenland a fondu cette nuit. Quoi. Le 10 juin, le Groenland a fondu. Donc moi, j'avais le journaliste fait, mais rassurez-vous, s'il avait fondu, vous en entendriez sérieusement parler, parce qu'à Marseille, ça serait compliqué. Quoi.
Au Luxembourg, on nous a dit, il se fend.
Voilà. Donc il y a une recherche du titre. Moi, je suis pas quelqu'un de nostalgique. Enfin, c'est un mot que j'arrive pas à prononcer. Non plus de nature. Moi, je pense qu'il faut être actif, qu'il faut y voir des opportunités, qu'il faut y réfléchir. Et je suis un peu d'accord avec toi. Il y a une perte de la complexité de la pensée qui est assez frappante. Ça se voit très bien dans les Trump, dans les tweets d'un certain Trump, par exemple. Avec une recherche du titre fantastique qui est évidemment faux, puisque le Groenland ne fondra pas en une journée.
Oui, ça rebondit aussi sur les propos que vous aviez, Olivier, par rapport même à l'état des connaissances scientifiques, de se méfier des approches simplistes avec une seule source d'information pour avoir une approche qui soit rigoureuse. Est-ce que vous arrivez à convaincre, par exemple, les agences de financement d'avoir ce travail de fond solide, étayé, méticuleux pour parvenir à avoir un suivi précis de ce qui se passe dans cette région lointaine, mais qui a des répercussions globales? Et deuxième volet, est-ce que le fait que vous travaillez sur ce qui se passe au Groenland aide à une prise de conscience aussi ici, en créant une appropriation de ce qui se passe dans une région qui peut sembler lointaine par rapport à une autre communauté humaine ici?
Je vais d'abord répondre pour les sources de financement. La NASA a financé, mais après 3 ans, on ne paye plus, parce que la science doit se faire en 3 ans. Donc ici, il faut 10 ans. Donc ça fait 20 ans que j'y vais. Les 20 dernières années, j'ai trouvé des sources à gauche et à droite. Ce sont des missions coûteuses, mais on y arrive. Par contre, la participation au réseau GPS, ça, c'était le Fonds national de la recherche scientifique qui a financé. L'université. Il faut savoir qu'on a sauvé les Américains parce qu'ils avaient fait leur projet au moment où le dollar était élevé et puis ils se sont retrouvés au dollar très, très faible et ils n'auraient pas pu finir. Donc voilà, ça c'est le côté financement. C'est pas facile. De manière générale, faire de la recherche d'observation comme ça sur de longues années, quand vous êtes en recherche, c'est très difficile à obtenir. Alors, l'autre point, c'était...
Est-ce que ça crée aussi une appropriation? Est-ce que ça crée des ponts entre d'autres communautés humaines pour susciter plus d'intérêt sur ce qui se passe?
Alors, le Groenland, non, mais j'ai fait 3 campagnes en Antarctique et puis il y a une personne qui est là aujourd'hui. Donc ça c'est sûr au Luxembourg et c'est quelque chose qui a eu beaucoup d'intérêt.
Qui suscite un intérêt.
Énormément. Mais de nouveau, l'intérêt que moi j'ai eu jusqu'à présent, ça n'a pas été tellement du point de vue scientifique, parce que bon, ce qu'on fait, c'est quand même un peu très spécialisé, pas toujours facile à expliquer, mais c'est pour expliquer la beauté des choses. Moi, je voudrais quand même faire un commentaire sur les Groenlandais, parce que moi, je les connais bien. Et les gens très... Alors, il y a plusieurs faces. Hein, il y a le truc touristique, l'Ulissat. Hein, et puis, il faut aller du côté Groenland Est. Ils ne parlent pas la même langue.
Les petites communautés,
hein. Oui. 7000 personnes, ils ne parlent pas la même langue. Ils n'aiment pas les autres et vice-versa. C'est comme Flamand-Wallon en Belgique. ces gens ont d'autres soucis que le changement climatique. Ils ont des problèmes d'alcoolisme. Je suis désolé de le dire, mais c'est vrai. Ils ont des problèmes terribles
d'emploi.
D'éducation, d'emploi. Les enfants à 12 ans sont envoyés loin des parents pour aller à l'école. Ils vont au Danemark. Ils goûtent à quelque chose d'extraordinaire au Danemark. Ils veulent revenir. Pour eux, la vie, ce sont des gens qui sont chahutés. Et je me permets de dire qu'ils n'ont toujours pas digéré leur indépendance parce qu'ils n'ont pas obtenu vraiment ce qu'ils voulaient. Et si vous parlez aux Groenlandais, c'est ce qui arrive. Hein. C'est oui, on a fait quelque chose, mais en fait, on n'est pas content. Donc ces gens, si vous voyez vraiment les gens qui sont là, locaux, leur souci, le changement climatique, c'est sur le côté. Le vrai problème, c'est on est une nation et on veut être une nation. Voilà. Donc c'est un autre point de vue, mais je pense que ça mérite de leur dire.
Oui, et puis ça illustre, en fait, pour moi, c'est un modèle réduit de plein de questions qui se posent sur, finalement, la recherche d'une forme de développement au service du bien-être des gens sur place, avec toutes les questions qui se posent sur l'exploitation ou non des ressources fossiles, le potentiel ou pas, la recherche d'un modèle économique, en fait, hein, qui reste très difficile.
Je dois aussi dire, quand je mesure et qu'il passe, il rigole. Hein. Qu'est-ce que tu fais là? Je m'occupe. Oh, on s'adaptera. ils sont très réalistes et donc
pragmatiques.
Et moi, ce que je déteste un peu, c'est cette projection qu'on fait du Groenland qui n'est pas du tout qui est celle d'aller à l'Ilulissat et surtout n'y allez pas. vous allez être déçus Voilà, donc ça.
C'est... Donc les caricatures, en fait, c'est aller là-bas voir les glaciers qui fondent sans s'intéresser aux populations, ou bien c'est placer les gens comme en situation de victime alors qu'ils détestent ça et qu'ils revendiquent leur capacité d'adaptation.
Vous ne rencontrerez pas les gens là-bas. Vous allez rencontrer les touristes qui viennent sur des bateaux de à 3000 et qui rentrent. Donc, pour voir le vrai Groenland, il faut partir. Mais bon, voilà, c'est une autre histoire. Mais voilà, et moi, je suis très amusé de voir ce qu'on projette, ce qu'on veut projeter du Groenland, et quand on y va depuis 20 ans, c'est autre chose.
Alors moi, je partage l'émerveillement pour la beauté de cette région, avec le travail sur les carottages aussi, et aussi sur, finalement, l'hospitalité qui est très présente dans les petites communautés, qui est assez spectaculaire.
Ça dépend. Est-ce que Groenland, il a fallu... Maintenant, je suis comme une famille là-bas, mais il a fallu 10 ans. Oui. Donc voilà.
Vous vouliez rajouter quelque chose, Angélique? Non?
Non, pas sur ce point-là. Peut-être sur le point justement des changements observés en Groenland et à quel point ça peut engager également d'autres communautés. Juste pour revenir sur ce point qu'effectivement les changements qu'on peut observer donc de la calotte polaire vont bien affecter le niveau de la mer, pas seulement autour du Groenland, c'est important, même le niveau de la mer va baisser en fait suite à la perte de masse de la calotte polaire. Le niveau de la mer va baisser localement. Proche du Groenland, mais va augmenter plus loin du Groenland, et y compris dans les tropiques. Donc ça, c'est une des causes majeures, en fait, de hausse du niveau de la mer que l'on a dans les tropiques, et donc d'impact pour d'autres populations. Et puis un autre effet aussi, donc cette fois pas les calottes, mais la banquise, la glace de mer, qui diminue en étendue, et cette banquise, en fait, avec son pouvoir réfléchissant important, elle est blanche, en la perdant, on va avoir plus d'absorption, là aussi, du rayonnement solaire, et donc emmagasiner encore plus de chaleur, et on sait que si on emmagasine plus de chaleur, les répercussions sont globales, c'est pas juste local.
Oui, donc les régions polaires, c'est aussi un endroit qui permet d'illustrer toutes ces interconnexions dans tous les sens, qui font les caractéristiques du fonctionnement du système climatique. Et avant de donner la parole à ceux qui sont présents ici, juste une petite forme de provocation. Finalement, une des icônes du changement climatique, hein, une des images qu'on donne souvent, c'est l'image de l'ours polaire isolé sur son morceau de glace de mer fondante.
Je peux en parler de tout ça.
Et je me demande si ce n'est pas aussi quelque chose qui peut freiner par rapport à une prise de conscience plus large, parce que finalement, ça apparaît comme très lointain, quelque chose d'assez distant de finalement ce qui nous concerne chacun d'entre nous, là où nous vivons. Et donc peut-être parfois les icônes, elles peuvent avoir un effet pervers hein, par rapport à une appropriation au sens de la perception de l'urgence à agir, aussi par rapport aux enjeux dans chaque région du monde, pour d'autres raisons. Voilà.
C'est le grand problème de la communication, de la presse, de ce que tu disais tout à l'heure. Une demi-heure d'interview pour un article, cinq lignes à l'arrivée et pas forcément ce qui a été dit.
Donc, moi, je me souviens d'un viticulteur du Gard qui était interrogé quand il faisait 46 degrés et que ses champs avaient été passés, enfin ses vignes avaient été comme passées au lance-flammes et qui avait dit « Ah, je comprends maintenant, c'est moi l'ours polaire. » Non, mais c'est la prise de conscience, souvent, elle vient du fait de ressentir chez soi ces conséquences-là, dans son vécu personnel, et pas forcément comme quelque chose qu'on arrive en fait à observer à un moment donné, à être captivé même, et puis qu'on met soigneusement de côté par la suite.
Pour l'ours, c'est simple, hein. Une grande partie de l'année, il est sur des galettes de glace. Mais il est isolé, pourquoi? Parce que la banquise, elle va se reformer. Ou elle est en train de se disloquer. Et là, bah, il attend pour passer à autre chose. Il n'est pas en danger. Si, à longueur d'année, un jour, ce qu'on n'espère pas, il est sur des morceaux, sur des galettes de glace, hein, on dit des pancakes, là, ça sera un vrai problème. Mais pour l'instant, la photo que vous avez vue sur la projection, hein, cet ours avec... qui est bien portant, hein, il a fait des réserves l'hiver d'avant, et puis il a dû manger un peu pendant l'été, beaucoup de baies, il mange des dizaines de kilos de baies en été, je l'ai vu moi se gaver de baies en baie d'Hudson, et puis attraper un canard aussi, donc voilà, il est opportuniste cet animal, hein, donc il va attraper ce qu'il trouve. Hein. Et bien avec ce coucher de soleil, hein, cette ambiance paisible, contemplative, il n'est pas en danger pour l'instant.
À part les enfants entre 8 et 16 ans, tout le monde s'en fout de l'ours polaire, très clairement. L'image d'Épinal de l'Arctique avec ça, ça ne marche pas. Ce qui marche, en revanche, c'est de montrer, par exemple, la paralysie de l'aéroport de Roissy quand il y a 5 cm de neige, de montrer les embouteillages sur la N118 quand il y a de la neige sur le plateau Saclay. Ça marche. Ça marche très, très bien même. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, dans le livre que j'ai réalisé, j'ai justement complètement voulu évacuer cette dimension ours polaire classique image d'Épinal. Et ce dont je m'aperçois là depuis qu'il est sorti, c'est que j'ai des conseils régionaux qui m'appellent. J'ai eu Occitanie, Normandie, Île-de-France, qui viennent me voir en disant mais alors vous n'êtes pas climatologue, on a compris, mais vous êtes le premier à nous dire qu'en fait ce qui se passe là-haut, ça va nous impacter nous, mais demain matin. Et j'ai dit non, je suis pas le premier, mais peut-être qu'il vous faut un petit peu de provocation. Et en effet, quand on va vous dire, comme j'ai fait à Montpellier le mois dernier, que les 46 degrés au mois de juin, ça va vous arriver peut-être un été sur deux, peut-être un été sur trois, peut-être moins, mais avec des grandes images chocs comme ça, on voit qu'ils bougent. Et les politiques notamment. J'ai travaillé 2 ans au Sénat et j'ai entendu tout. J'ai entendu le Groenland qui va fondre, j'ai entendu l'Antarctique qui va se fendre, j'ai entendu toute espèce de trucs, mais par des gens qui sont présidents, vice-présidents, des groupes par exemple d'études sur les pôles.
Le développement durable.
Tout à fait.
Avez-vous des questions par rapport à toute la diversité de compétences et d'expériences qui est autour de moi? Oui.
Oui, j'avais une question sur les points de basculement. C'est une notion très terrifiante qui est revenue à plusieurs reprises, donc, notamment dans le cas du point de basculement pour la fonte des calottes polaires. On l'a aussi entendu dans le cas de la biodiversité, si on passe un point de basculement, l'Amazon peut devenir une savane. J'imagine qu'on ne peut pas vraiment intégrer ça dans les modèles, donc si c'était intégré dans les modèles, on n'aurait pas, même dans le cas des scénarios les plus effrayants, une courbe qui monte comme ça, mais il y aurait quand même des sortes de marches soudaines. Donc déjà, la première question, est-ce que c'est intégré ou est-ce que c'est intégrable dans les modèles? Et si ça ne l'est pas, comment faire pour bien insister sur le fait que ces modèles à la fois climatiques et économiques passent plein de choses à côté, dans le sens où ça nous donne une image possible des futurs, mais en même temps on n'intègre pas forcément les points de basculement, on n'intègre pas forcément non plus les pertes irréversibles. Donc quand un État entier se retrouve submergé sous les eaux, ou même avant cela, quand des populations entières doivent migrer dans les petits États insulaires pour partir sur le continent et se retrouver en population éclatée, il y a des pertes également à la fois linguistiques et culturelles qui ne sont pas intégrables dans les modèles. Comment on fait comme scientifique pour bien montrer toute cette incertitude, tout en gardant le message de fond que ça peut être très grave?
Tu commences?
Comme tu veux.
Je t'en prie. Qui voulait intervenir?
Alors, c'est une question... en fait, il y a plein de questions derrière. Il y a la notion d'incertitude, d'erreur, etc., qui est extrêmement difficile à communiquer. Je laisserai probablement répondre Valérie sur l'intégration de la dynamique à l'intérieur des projections, parce que c'est une question complexe et je ne sais pas exactement comment elle a été traitée sur le dernier, sur le dernier rapport. Sur l'instabilité, en particulier l'instabilité de l'Antarctique de l'Ouest, parce que l'instabilité des petites calottes sur le Groenland est un processus qui est relativement lent. Fondre de la glace, ça demande beaucoup d'énergie, c'est lent. Alors que l'aspect dynamique de l'Antarctique de l'Ouest, c'est finalement déplacer de la glace pour la mettre dans l'océan, et c'est quelque chose qui va beaucoup plus vite. Je pense que c'est effectivement très difficile à communiquer, et pour moi, ça amène beaucoup d'humilité, en fait. Parce que déterminer, c'est ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure en vous conseillant de lire le papier de Mercer, c'est quelque chose qui est dans la communauté depuis 1973. Donc ça fait 50 ans globalement qu'on a des doutes là-dessus. Et puis c'est quelque chose qui suit le processus de construction de la connaissance, c'est-à-dire qu'on émet une hypothèse, puis finalement il n'y a pas d'observation que les glaciers s'accélèrent, donc finalement cette hypothèse elle est écartée. Et puis on revoit l'accélération, on voit cette accélération, donc on ressort, et puis on s'aperçoit que nos modèles et nos théories n'expliquent pas ce qu'on observe, donc il faut le refaire. La problématique de la dynamique de l'Antarctique est une illustration très belle de la démarche scientifique. Et moi, je pense que derrière, elle rajoute quelque chose, elle rajoute quelque chose sur l'incertitude. Ce point de bascule, il va être très difficile à quantifier, si on peut le quantifier. Et on aura toujours du mal à dire c'est 1,5, 1,6, 1,7. On va être capable de donner une zone approximative, de dire c'est par là, on va chercher après à raffiner cette zone, mais on n'aura jamais de certitude. C'est un processus, il y a des notions de chaos, c'est hautement non linéaire, etc. Donc ça amène énormément d'humilité là-dedans, et puis ça amène aussi beaucoup d'humilité parce que c'est des changements de trajectoire sur du long terme. C'est-à-dire que moi, souvent, j'entends dire, mais bon, de toute façon, à titre individuel, je ne peux rien faire, et puis la trajectoire, ça va augmenter, je ne peux rien faire. Non, ce n'est pas vrai. Surtout, la grosse différence, c'est que le choix qu'on fait maintenant ont des impacts majeurs, non linéaires, sur ce qu'on fait plus tard. Ce n'est pas parce qu'on fait un petit peu trop qu'on n'aura qu'un tout petit peu plus de changement. En faisant un petit peu trop, on peut faire énormément de changements. Et on ne saura jamais ce que c'est que ce un petit
avant
peu trop.
Avant de le vivre.
Avant de le vivre. Enfin, avant de l'avoir subi, je dirais, plutôt que de le vivre.
Oui.
Alors, peut-être pour revenir un peu sur ces histoires de points de bascule et d'intégration dans les projections. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup, pour en revenir avec aux calottes polaires, il y a eu beaucoup d'améliorations de nos compréhensions des processus quand même depuis le rapport du GIEC qui avait été publié en 2013, l'assessment report, le cinquième. Et ce qui fait qu'en fait les projections du hausse du niveau de la mer du dernier rapport du GIEC, le SROC, ont été revues à la hausse. Et ça, c'est parce qu'on a amélioré notre compréhension de ces processus et on a pris en compte certains processus d'instabilité en Antarctique. Par contre, on n'a pas pris en compte tous les processus possibles d'instabilité de la contribution de l'Antarctique à la hausse du niveau de la mer. Il y en a qui ne sont pas encore suffisamment bien connus, bien compris, pour qu'on puisse les intégrer dans les projections. Mais c'est ce qui pourrait nous amener aussi à des hausses bien plus importantes à la fin du siècle du niveau de la mer.
Alors, dans les questions que les politiques nous posent quand on prépare les rapports du GIEC, il y a quels sont les effets de seuil? Et ce n'est pas dans le climat, c'est aussi pour des pertes irréversibles d'écosystèmes, leur fonction, leur service, et puis pour les sociétés humaines. Donc ce n'est pas simplement la partie physique, c'est en cascade. La question qu'il nous pose aussi, c'est quelles sont les irréversibilités à différents horizons temporels, y compris à très long terme. Il y a une forte aversion à subir des changements irréversibles, je pense, de la part des gens qui sont nos interlocuteurs pour la préparation des rapports du GIEC. Donc dans le rapport sur 1,5 degré, on l'a un petit peu abordé, assez superficiellement, parce que pour des niveaux bas de réchauffement, on n'est pas forcément dans la gamme de ces conséquences-là. Dans le rapport sur les océans, la cryosphère, il y a un chapitre entier, le dernier, sur les événements abrupts, où on fait le point. Et notre communauté scientifique, elle a décidé d'aborder ça en disant, voilà, il y a des choses pour lesquelles on a une certaine confiance dans les modèles dont on dispose, on rapporte leur dispersion, puis on fait une moyenne, c'est une tête linéaire, mais en réalité, ça ne le sera pas. Ça cache en fait des comportements, une variabilité propre à chaque réalisation qui est masquée. Par contre, il y a un aspect qui est une incertitude profonde. Donc on n'a pas confiance dans nos outils. C'est ça la notion d'incertitude profonde. Mais dans une analyse de risque, c'est extrêmement important. Donc on rapporte à part, si ce phénomène se produit, voilà ce qu'on sait de ce qu'en seraient les conséquences. On ne peut pas vous dire quand ça va se produire, si ça va se produire, à quel niveau de réchauffement ou pour quel horizon temporel. Mais si ce phénomène-là démarre, alors voilà quelles seraient les implications. Donc ça a été dit sur l'instabilité de certains secteurs de l'Antarctique de l'Est et de l'Ouest. Ça a été dit sur un effondrement de la circulation océanique méridienne de l'océan Atlantique Nord. Il y a d'autres exemples. Difficulté supplémentaire. Dans les modèles en fait, d'impact économique, dans les modèles économiques en général, la prise en compte des effets du changement climatique est très mauvaise. Et enfin, sur les fonctionnements des sociétés, alors on a un recul historique, archéologique, historique, récent. On voit très bien que les mêmes conditions, les mêmes aléas provoquent des effets très différents en fonction du contexte, en fonction de la gouvernance, en fonction de la capacité à s'organiser autrement devant une situation inédite. Et donc là, en fait, c'est très difficile d'extrapoler sur des situations futures. Et ce qu'on donne comme exemple, de manière un peu détaillée dans le rapport sur 1,5 degré, c'est la situation en Syrie entre les années 2000 et 2010. Donc une sécheresse sans précédent sur plusieurs siècles, très forte, plusieurs années. Un système politique intenable, hein, avec une minorité qui accapare le pouvoir. Un modèle de production agricole destiné à produire du coton très dépendant de l'eau pour l'exportation. Et ça a explosé. Donc il y a eu des centaines de millions de paysans qui ont été obligés de quitter leurs terres semi-arides, aujourd'hui une zone d'instabilité majeure, qui ont rejoint les grandes villes, puis ça a été une étincelle dans une poudrière avec bien d'autres facteurs régionaux, je dirais. Est-ce qu'on peut parler d'un effet de seuil? Qu'est-ce qui a été le déclencheur de cet effet de seuil? C'est difficile à dire. Et en cascade, après, on a eu des vagues de migrants qui ont cherché asile, qui sont toujours en Turquie, dans les pays voisins, compliqués. On a eu des effets en cascade en Europe, y compris la peur d'arrivée massive d'immigrants dans beaucoup de pays. Voilà, donc c'est des effets en cascade très compliqués qu'on n'a dans aucun modèle en réalité. Donc nous, on l'aborde de manière très schématique avec ces grands scénarios socio-économiques, un monde très conflictuel où, avec des inégalités qui explosent, ou un monde, disons, plus harmonieux, plus, avec vraiment un souci de la soutenabilité. Mais c'est des récits qui n'ont rien à voir avec ce que peut être la complexité de la réalité.
Merci beaucoup. Je crois qu'il y a un problème aussi en amont et en aval. Ça fait 4 ans que j'évalue des projets scientifiques qui sont soumis à la Commission européenne pour H2020 sur l'Arctique. Et systématiquement, on voit que, et ça fait partie des demandes de la Commission, la dimension analyse des impacts économiques et donc socio-économiques qui est censée être prise en compte dans chaque projet, ça vient toujours à la fin, c'est toujours à l'arrache. C'est toujours fait par, certainement pas des spécialistes, des économistes. Il n'y a jamais, jamais, jamais d'institut d'économie appliquée dans les consortiums scientifiques. Donc déjà ça, il y a vraiment le schisme entre sciences dures d'un côté et économistes de l'autre qui pose problème. Et enfin, ensuite plutôt, en aval, il y a le politique. Le politique, on lui envoie le rapport et le politique dit... Ah, mais ça va, on n'y est pas encore au tipping point, à l'effet de seuil. Donc, on aura le temps de se bouger jusque-là. Et en attendant, on peut réfléchir à ce qu'on va faire au moment où on sera à l'effet de seuil. Ça, au Sénat, à la Commission européenne, au Parlement européen, je l'ai entendu des dizaines de centaines de fois. Et le véritable problème de compréhension, c'est que comme le public ne réclame pas que les politiques prennent ce problème à bras-le-corps, avant l'apparition des effets de seuil, comme ce n'est pas une demande qui est relayée massivement, qui ne fait même dans les marches sur le climat, c'est pas ça qu'on demande. On demande juste qu'ils bougent. Bon, mais ils bougent pourquoi? Donc ils font 3-4 bidules ou 3-4 conférences comme certains, et ça s'arrête là. Ils ne parlent pas de ce qu'ils peuvent faire pour empêcher les tipping points de se produire. Donc en amont et en aval, il y a un problème et les médias ont là aussi une part de responsabilité.
Voilà, et après il y a un deuxième enjeu qui est d'avoir les systèmes de surveillance suffisamment adéquats pour ne serait-ce que détecter si ça se produit. Du côté de l'Antarctique, ça glisse plus dans certains secteurs, on ne peut pas conclure aujourd'hui. Du côté du permafrost, on ne peut pas savoir si ça rejette plus de gaz à effet de serre que ça n'en absorbe dans ce secteur-là, faute d'observations et de recul temporel. Voilà, donc on a aussi besoin d'avoir des systèmes de surveillance, d'alerte précoce. Ça a été mis en place pour les courants marins de l'océan Atlantique, mais sur une période tellement courte, c'est seulement 15 ans, qu'on ne peut pas encore conclure sur le fait de détecter des tendances. Oui.
Oui, bonjour. Par rapport à M. Francis, la discussion que vous avez eue, excusez-moi, j'ai le trac, c'est bizarre. Vous avez parlé de la gravité, du poids, des masses. Si du coup la masse part, la Terre se lève, est-ce qu'il n'y aurait pas des problématiques au niveau tectonique? Est-ce que ça a commencé déjà des discussions? Est-ce qu'il y a des études, des analyses par rapport à ça?
On est sur des, je vais vous dire des, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, des longueurs d'onde telles, donc ce sont des dimensions telles et de l'ordre, c'est relativement, lent aussi. On peut prendre un autre exemple, c'est pour que vous compreniez bien la différence, quand on est dans le nord de la Hollande et qu'on pompe du gaz, oui, là, on va avoir des tremblements de terre qui arrivent immédiatement parce qu'en plus, on enlève de la matière. Ici, on n'enlève pas de la matière, c'est finalement de la matière qui a été compressée. Hein, c'est comme quand vous montez sur votre balance, compressez un ressort, on le décompresse, il n'a aucune raison de casser le ressort. Maintenant, je sais qu'il y a des tremblements de terre au Groenland, mais c'est rare. Donc on peut s'attendre à ce qu'on n'est pas dans une région où une décompression va amener des séismes importants. Donc ça, c'est une réponse. Mais effectivement, à certains endroits, ça pourrait. Si la calotte était au sud de la Californie, ça, on aurait un autre problème. Donc non seulement on a la tectonique qui agit, mais on aurait aussi cette relaxation de la tension.
Il y a un sujet d'étude aussi sur le recul des glaciers globalement et éventuellement une interaction avec l'activité volcanique. Ça reste un sujet d'étude. Il y a des réflexions, mais je ne crois pas qu'il y a un résultat vraiment concluant.
Mais une chose qui est plus intéressante, c'est que maintenant on parle de icequake. Ouais. Donc quand vous voyez ces fleuves marins, là, eh bien, il va y avoir des cassures qui se font dans la glace, elle peut se faire. Donc moi, j'étais à la station belge en Antarctique. On a des icequakes qui se passent à 150 km à l'intérieur du pays, enfin du continent. Et c'est simplement parce que la glace est en train de couler autour de montagnes, de pics rocheux. Il va y avoir des frictions. Et donc, elle retient la glace, et puis la glace est relâchée. Alors, c'est très, très intéressant, parce qu'évidemment, les scientifiques utilisent toujours des choses. Donc, maintenant, on a une onde qui se propage, et on peut étudier, faire de la tomographie, et étudier la glace comme ça. Donc, ça, j'ai entendu des icequakes. Il y en a eu, je pense, j'en ai vu au Groenland. Mais on n'a pas qu'il y ait des tremblements de terre qui sont liés à ce... Pour ça, pour l'instant, non. Oui.
Alors, je ne sais pas ce qu'il en est pour les tremblements de terre. En revanche, ce que je sais qu'il en est d'un point de vue économique, c'est que, et vous le savez peut-être, la Chine a utilisé en 3 ans autant de ciment que les États-Unis sur tout le XXe siècle. Et qui dit ciment, dit sable. Et qui dit sable très utilisé, dit pénurie. La Chine va chercher son sable principalement en Asie du Sud-Est, Indonésie, Malaisie, etc. Ces ressources en sable, bah, du coup, sont foutues. Il n'y en a quasiment plus. En tout cas, plus d'exploitables. Et du coup, l'apparition des sédiments groenlandais est en train de générer, à la fois en Chine, un intérêt majeur, mais aussi au Groenland même, où plusieurs anciens politiques qui se sont reconvertis en consultants pour faire venir les investisseurs étrangers sont en train tout simplement de dire... Voilà une nouvelle ressource minière qui est accessible pour nous. Et aucun d'entre eux, ni côté exploitant, ni côté exploiteur, ne sont prêts aujourd'hui à nous donner des informations scientifiques sur l'impact que ça pourrait avoir, cette exploitation massive de sable au Groenland.
Oui, merci. J'avais une question pour Madame Angélique Mellet. quand vous avez parlé d'injustice des zones côtières, j'ai trouvé ça très important. Moi-même, je viens du bord de mer, je suis née au bord de mer, mer du Nord, et je vois le changement à l'œuvre, et je vois aussi les dispositifs d'adaptation mis en place. Ils ont dragué du sable, ils ont avancé sur la mer, ils ont des dispositifs de barrières. Et là, je me rends compte qu'on est des privilégiés. Alors, je voulais savoir s'il y a également une injustice au niveau de la pêche, parce qu'on a beaucoup parlé de zones côtières, c'est aussi au niveau de la pêche. Est-ce qu'il y a un impact sur le ralentissement du Gulf Stream au niveau du plancton, de la faune disponible? Peut-être qu'il en a été question ce matin, désolée, je n'étais pas là, mais est-ce qu'il y aurait aussi une injustice liée à ce que vous avez dit, la répercussion globale des phénomènes arctiques, qui serait aussi de l'ordre de ce ralentissement du Gulf Stream et des tourbillons et de l'entraînement de... J'avais lu ça chez Eric Orsena, bon, qui a quand même un vulgarisateur, mais, qui parlait de ce phénomène-là, d'une espèce d'évolution de la marée au sens de pêche.
Alors, je vais avoir du mal à répondre sur le lien entre le Gulf Stream et la biomasse, la pêche en Atlantique Nord, en tout cas. Par contre, effectivement, il devrait y avoir un ralentissement à long terme du Gulf Stream lié justement au rejet d'eau douce apporté par les pertes de masse, notamment de la calotte groenlandaise. Par contre, en lien avec le changement climatique et avec l'augmentation de température des océans, mais aussi de leur acidification, puisque les océans absorbent une partie du CO2 d'origine anthropique, 20%, on a vu ce matin, là, on va avoir des effets dans des régions lointaines également, notamment, ça a été le cas des coraux, comme on a pu le voir, et pour d'autres espèces, on aura des impacts. Et ça a des impacts ensuite sur les ressources qu'on peut avoir pour les pêcheries dans ces régions-là. Pour le lien avec le Gulf Stream, j'ai laissé...
Alors, le Gulf Stream, en fait, c'est un courant chaud de surface qui est dû à la rotation de la Terre. Celui-là, il va rester. En fait, ce dont on parle, c'est ce qu'on appelle la circulation méridienne de l'océan Atlantique, donc une espèce de grand tapis roulant avec des eaux chaudes qui vont vers le nord en surface, plongent, puis une boucle froide. Et donc, cette circulation méridienne, il semble que depuis, disons, le 19e siècle, elle s'est ralentie. Dans les modèles de climat, quand on rajoute des gaz à effet de serre, ça se ralentit, mais on n'est pas capable de conclure si c'est la cause aujourd'hui, de manière rigoureuse, formelle. Dans tous les modèles de climat, quand on rajoute des gaz à effet de serre, ça continue à se ralentir, même sans la fonte du Groenland. Alors, si on prend en compte la fonte du Groenland, ça peut être un peu plus fort. Il y a également une boucle de circulation océanique qu'on appelle la gyre subpolaire, qui est juste en dessous du Groenland, qui a une certaine variabilité, qui peut changer, et de manière aussi un peu brutale, dans un climat qui se réchauffe. Et alors là, très localement, sur des pêcheries locales, on sait que ça aura des effets majeurs, en fait, par rapport au type de poisson qu'on va trouver localement. Ça s'est produit dans le passé, et voilà. Et donc, en termes de productivité dans les océans, on observe une baisse de la productivité primaire, en particulier dans les régions tropicales, donc en fait le plancton. On observe une baisse du potentiel de prise de pêche. C'est compliqué parce qu'en fait, on a déjà de la surpêche. Donc quand on enlève ça, on a déjà une baisse du potentiel de prise de pêche, en particulier dans les régions tropicales, qui ne va faire que s'accentuer à mesure du réchauffement. Par contre, dans les eaux arctiques, comme les poissons ils cherchent à garder leur zone d'habitat adapté, ils se déplacent, en fait, les poissons des zones tempérées, se déplacent vers les zones arctiques, vont en concurrence avec les espèces locales. Et donc, c'est le seul endroit où, dans les simulations, les deux modèles de poissons pêchés qui existent, on anticipe une hausse du potentiel. D'où beaucoup de tensions, en fait, pour avoir le droit de pêcher dans des eaux pas très régulées et finalement d'avoir une capacité à être les premiers à préempter ces ressources dans un contexte assez tendu pour les pêcheries. Donc oui, c'est une injustice supplémentaire. Oui, la France a un rôle à jouer. D'ailleurs, je me souviens qu'au Groenland, les Français avaient très mauvaise réputation parce qu'ils venaient pêcher de manière pas toujours très respectueuse.
En fait, les Français ne viennent pas pêcher de manière très respectueuse, mais en plus de ça, grâce à Saint-Pierre et Miquelon, en fait, voilà. La France fait partie de la zone de gestion des pêcheries de l'Atlantique Nord-Ouest. Et du coup, on a les Canadiens, on a les Américains, les Français et les Danois, pas plus. Et les Français, c'est grâce à Saint-Pierre et Miquelon qu'on est là. Sauf que à Saint-Pierre et Miquelon, ils ne, pour l'instant, gèrent que ce qui les intéresse, eux. Et Paris ne s'insère pas plus que ça, alors qu'il le pourrait tout à fait, dans cette gestion des pêches de l'Atlantique Nord-Ouest.
Monsieur ?
Oui, merci beaucoup pour les exposés. Je sors avec beaucoup d'informations que je dois encore travailler. J'ai une question justement par rapport aux 93% de l'énergie supplémentaire qui est stockée dans les océans. j'étais loin de le savoir, franchement. Bien que nous parlions des territoires arctiques, j'ai une question par rapport aux régions tropicales aussi. Il est évident qu'il y a de plus en plus de cyclones tropicaux. Donc c'est quelque chose, vous avez parlé justement de la hausse du niveau des mers et des régions côtières. Est-ce que vous avez des connaissances? Dans quelle mesure ça va avoir un impact, justement? Et comme le disait monsieur ce matin, donc avec ce cher Donald, c'est quelque chose qui pourrait même l'intéresser à lui. Dans quelle mesure ça va avoir un impact sur les cyclones tropicaux? Nous avons eu la malchance d'avoir la première tornade de Luxembourg cette année, depuis toujours. Et voilà, c'est une question associée justement à ceci.
Alors en fait, sur les tornades, ça reste très difficile parce qu'on a peu d'observations dans le temps long, à part quand on a des recueils historiques un peu continus dans certaines régions. Donc ça reste très difficile d'avoir une conclusion s'il y a une tendance, si c'est juste pas de chance un événement rare, ou si ces événements se répètent. On est vraiment là dans les verrous par rapport aux observations dont on dispose, en Europe et ailleurs. Sur des tempêtes très intenses, par exemple la tempête de 99, qui avait eu des effets dans l'est de la France, le Luxembourg, l'Allemagne, etc., vous vous souvenez, on avait retrouvé dans les données historiques des tempêtes qui font tomber les clochers, ça revenait à peu près tous les 400 ans. Donc c'était pas quelque chose de nouveau, c'était quelque chose de rare, et on ne détecte pas une augmentation de ce type de tempête dans nos latitudes. Alors, dans les régions tropicales, il n'y a pas une augmentation du nombre de cyclones, mais il y a quelques indices qu'il y a une augmentation de trois facteurs. Le premier, c'est l'intensité des vents et l'intensité des pluies dans les ouragans des catégories les plus fortes. Et également, pour les régions côtières, quand on a un cyclone, une augmentation de la hauteur de submersion, parce que le niveau des mers a monté, en fait. Donc ça fait augmenter aussi le niveau record. Dans les simulations d'évolution future du climat, pour un réchauffement important, typiquement de l'ordre de 2 degrés, il n'y a pas de simulation d'augmentation du nombre de cyclones, c'est plutôt moins, parce qu'en fait, on a, disons, une stabilité un peu plus grande de l'atmosphère. Par contre, il y a une augmentation de l'intensité très claire, vitesse des vents, quantité de pluie, des ouragans de catégorie 4 et 5. Donc, ce n'est pas forcément plus de cyclones, c'était très contrasté selon les régions, mais c'est un risque de renforcement de l'intensité des plus violents. Alors, les mécanismes à l'œuvre sont par exemple d'avoir des eaux de mer plus chaudes, d'avoir également donc une atmosphère plus humide qui va pouvoir contenir plus d'humidité, relarguer plus de chaleur latente quand cette humidité se condense. Et puis aussi des changements en fait, dans la structure verticale de l'atmosphère qui permettent d'avoir des cyclones qui ont une structure spatiale plus large et parfois qui stagnent un peu plus et donc qui peuvent provoquer plus de dégâts sur leur passage. Mais on est vraiment aussi sur un peu des limites de connaissances par rapport aux outils dont on dispose. Et dans le rapport sur l'océan et la cryosphère, dans le dernier chapitre, on a toute une table qui récapitule dans la littérature scientifique les événements extrêmes avec des forts impacts dont les caractéristiques ont été montrées par des travaux de modélisation qui ont été renforcés parce que l'océan est plus chaud. Par exemple, l'ouragan Sandy qui avait tapé New York, vous vous souvenez peut-être, il y a quelques années, provoqué beaucoup de dégâts et conduit à une réinvention de la manière dont New York pense sa résilience. Que New York est une des villes les plus exposées, donc a vraiment transformé beaucoup de ces réflexions locales. L'ouragan Sandy, en fait, les gens du Centre européen de prévision météorologique ont fait la prévision à l'époque, qui était assez juste, et ils ont refait cette simulation en prenant non pas la température de l'océan en octobre, je ne sais plus quelle année c'était, début des années 2000, mais en prenant une température moyenne des décennies d'avant. Et ils ont montré que ça aurait été la même trajectoire, mais que l'intensité de cette tempête aurait été beaucoup plus faible, que le risque de submersion aurait été également beaucoup plus faible, et en fonction de la hauteur de la mer à ce moment-là, les dégâts auraient été très différents sur le métro, sur d'autres infrastructures. Donc voilà où on en est aujourd'hui, c'est-à-dire donner sens à des événements ponctuels, pas simplement des tendances, et comprendre en quoi leurs caractéristiques ont été modifiées. Et le secteur d'activité qui est le plus demandeur de ce type d'information, c'est le secteur de l'assurance. Assurance, réassurance. Et vous parliez des points de bascule. Je vais donner un exemple de point de bascule. Saint-Martin, une des îles françaises, dévastée par l'ouragan Irma. Il n'y a plus que deux assureurs sur place qui acceptent d'assurer un bâtiment hôtelier au même endroit, dont on sait que c'est un endroit vulnérable, pour reconstruire. Un tout petit assureur local, qui n'a pas les reins très solides, et le grand groupe allemand, Allianz, etc. Les autres refusent. Donc le point de bascule, en fait, c'est ça. C'est quand, à un moment donné, vous n'arrivez plus à avoir de système de mutualisation de risques pour remettre en place des choses qui sont stratégiques pour l'activité économique locale.
Merci. Ici, c'est l'inverse. Depuis la tornade, ce n'est pas un cyclone tropical, il y a les sociétés d'assurance qui nous téléphonent pour proposer justement des packages.
Et alors, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est rentable pour eux.
Mais le risque est pas assez grand. Pas d'autres questions ?
D'autres questions, d'autres commentaires en cette fin de journée ?
Bon, on va... Oui ?
À la fin de votre exposé sur l'Arctique post-polaire, vous avez dit, eh ben oui, les investisseurs et des milliards, et ils sont contents. Mais à mon avis, ce n'est pas comme ça que ça risque de se passer. Est-ce que vous pourriez...
À votre avis, vous pensez que ce n'est pas comme ça que ça risque de se passer ? Alors, qu'est-ce que vous pensez qui peut se passer ?
J'aimerais bien voir...
Ah non, mais je prends votre avis, je prends votre avis pour partir de votre avis.
Non, c'est moi qui pose les questions. C'est vous Allez. Qui avez la science infuse.
Oh oui, 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 il paraît, je ne sais pas. Non, mais écoutez, ce qui est assez fascinant, c'est de voir comment, au début des années 2000, ça n'intéressait personne. C'est-à-dire qu'il n'y avait que les quelques peuples autochtones d'Alaska qui géraient les territoires sur lesquels il y avait les projets de port qui essayaient de pousser pour ça, et puis l'Islande de l'autre côté. Donc c'était assez limité. Puis, ce que la Russie a compris, et là on est vraiment sur la deuxième partie de la gouvernance de Poutine, donc on est sur les années post-2010, c'est que non seulement la Russie pourrait développer une rente classique d'énergie, et il pense évidemment au GNL, donc au gaz naturel liquéfié. Vous avez tous vu, je pense, le projet Yamal LNG, qui a coûté 27 milliards de dollars, qui est un projet franco-sino-russe, qui n'est que le premier d'une longue série de projets avec Arctic LNG 1, 2, 3, Hub LNG, et ainsi de suite. Donc il y a cette rente énergétique. Je ne vais parler que du LNG, on aurait pu parler de plein d'autres choses. Mais ils veulent développer aussi une rente de situation, ce qui n'était pas le cas jusqu'à maintenant. Le monde a toujours été considéré d'est-ouest, aussi bien chez les géostratèges russes, qu'européens, qu'américains. Et la logique de passer nord-sud, les Américains, ils ne l'ont pas encore. Nous, on y arrive petit à petit. Mais les Russes, comme les Chinois, comme les Sud-Coréens, comme les Japonais, eux, par contre, ils sont à plein dedans. Et Federica Mogherini, qui vient de quitter donc, son poste de haut représentante aux affaires étrangères de la Commission européenne, a été en Europe la première à porter l'idée qui est similaire donc à celle des Russes et celle des Asiatiques, d'un Arctique Nord-Sud. Ce qu'elle a dit, c'était en 2016, à Oulu, elle a fait un grand discours pour expliquer, dans le cadre à l'époque de l'accord, des négociations de l'accord de libre-échange UE-Japon, que, tout simplement, l'Arctique était le moyen de connecter exactement le plus logique le marché européen et le marché japonais qui étaient en train de signer cet accord de libre-échange. Et du coup, elle disait, l'Arctique n'est plus une barrière, l'Arctique était une passerelle. Et cette logique de passerelle, on la retrouve donc maintenant petit à petit chez nous, mais on la retrouve chez tous ceux du Sud là, qui sont en train d'un petit peu flipper par rapport au développement de l'Arctique. Ce qu'on ne dit pas, c'est que l'Arctique va remplacer Suez ou le canal de Suez ou le canal de Panama. Ce n'est pas ça qu'on dit du tout. Et si vous entendez ça, fuyez, ça c'est du bullshit. Ce qu'on dit, en revanche, c'est que le marché du transport maritime, selon l'OCDE, devrait tripler entre 2020 et 2050. Et sur ce triplement, il y a un panel d'opportunités intéressantes. Et ce que diverses études, qu'elles soient européennes ou asiatiques, montrent, c'est que les routes arctiques, dans leur totalité, pourraient capter entre 5 et 20% du trafic Europe-Asie, à l'horizon donc 2040-2050. Et ces 5%, si on prend juste l'hypothèse la plus conservatrice, si on prend les 5%, ça représente déjà plusieurs centaines de milliards de dollars par an de marchandises en valeur qui passent par la zone. Donc, ça nécessite des investissements. Et ces investissements-là, Guggenheim Partners américain est prêt à les consentir. Les différents États de la région ont déjà commencé à les consentir. Les Chinois, notamment dans le cadre du fonds souverain Silk Road Fund, donc le fonds souverain des routes de la soie, ont déjà commencé à les consentir. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, ce qui est nouveau depuis maintenant 2 ans, c'est qu'on voit des investisseurs portuaires, donc des logisticiens portuaires, hein, purs, pas des armateurs, qui viennent des routes du Sud, qui sont en train de chercher à prendre des positions, soit en construisant des ports, soit en s'insérant de manière capitalistique dans la gouvernance des ports de l'Arctique, de manière à pouvoir s'assurer que si cette alternative se matérialise bien, ils ne se feront pas avoir. Et les premiers là-dedans, c'est DP World. Et DP World, comme je le disais, donc, c'est le port de Dubaï, en réalité. Le deuxième, c'est Bremen Ports, le port de Bremerhaven en Allemagne. Et on peut aller ainsi de suite. Je peux même rajouter une carte demain, si vous venez demain matin, pour vous les présenter.
Alors, il y a beaucoup de dissonances cognitives. Il y a beaucoup de dissonances cognitives. Il y a beaucoup de dissonances cognitives, c'est-à-dire même des gens de bonne volonté qui revendiquent d'être proactifs sur la question climat, prennent des décisions au quotidien qui sont orthogonales. Est-ce que vous voulez que je développe ou pas ? Et ça, c'est la première question. C'est-à-dire même des gens qui semblent sincères, qui ont compris les enjeux, ne font pas le lien avec des décisions d'investissement, on va dire. Et le deuxième volet, c'est qu'il y a aussi énormément de cynisme du côté de la Russie, qui a ratifié vraiment très dans les pieds l'accord de Paris, je pense contraint et forcé par d'autres enjeux diplomatiques divers et variés, n'a pas du tout en fait une action à hauteur de ce que ça impliquerait. Après, donc, sur le secteur maritime, il y a des vrais enjeux. Hein. Donc, vous savez que sur le mécanisme de l'accord de Paris sur le climat, ce sont des engagements nationaux, mais les secteurs de l'aviation, le secteur maritime, ne sont pas directement concernés. Ils sont quelques pourcents, de l'ordre de 5% en tout des émissions mondiales, mais ça ne fait que croître en termes de fret et en termes de passagers. Il y a une politique qui est en fait très hypocrite de l'Association internationale de l'aviation civile, qui dit qu'elle compensera les émissions par l'achat en fait de certificats de compensation à partir de 2020, tout en visant... voilà. Et toutes les entreprises également d'exploitation du pétrole et du gaz, donc le charbon c'est différent, mais toutes les entreprises d'exploitation du charbon et du gaz commencent à afficher une politique, disons, environnementale, qui peut sur le papier sembler intéressante, mais qui est exprimée de manière très prudente. Donc si vous prenez un grand groupe pétrolier de mon propre pays, il affiche en fait une ambition à gagner en intensité carbone sur trois périmètres qui sont plutôt ambitieux en tant que tels, de l'ordre de 15%, hein, donc à horizon 2030. Il présente ça comme compatible avec l'accord de Paris sur le climat, tout en voulant produire plus et vendre plus. Donc en fait, vous faites production fois efficacité, et si le résultat augmente, ça n'est pas compatible. Et donc il y a plusieurs études, dont une sortie hier, hein, qui montre qu'il y a vraiment un décalage entre les aspirations à la production de ces acteurs-là. Donc parfois c'est des entreprises, parfois c'est des États, et puis ce que sont les engagements de l'accord de Paris sur le climat.
Non, mais je vais vous donner deux exemples. En moins d'une minute, je vais vous donner deux exemples. Premier exemple, tous ceux qui parient sur le GNL. Le GNL, le gaz naturel liquéfié, pollue 30% de moins que du pétrole d'un point de vue CO2 et 95% de moins d'un point de vue soufre. Donc là-dessus, si le secteur du transport maritime passe au GNL, ce que fait CMA CGM, ce que fait Maersk, etc., déjà ils disent c'est bon, moins 30. Donc ça, c'est le premier point. C'est juste là du pur argumentaire. Si en plus on fait les moins 30 et qu'on passe par l'Arctique, donc qu'on pollue moins parce qu'on navigue moins, et alors c'était mon deuxième exemple justement, ça permet vraiment de passer même au moins 50 si on passe par l'Arctique plutôt que passer par la route du Sud. Et donc sur la question du slow steaming, comme on appelle ça chez nous, je me suis battu en France par rapport au cluster maritime français, à Armateurs de France et à mes amis du GICAN. Alors, pourquoi ? Parce qu'eux disent, ce qu'il faudrait arriver à faire, et ils ont convaincu Macron de ça, by the way, c'est de pousser un slow steaming à l'échelle mondiale, c'est-à-dire de mettre une limitation de la vitesse des grands navires en haute mer. Et l'idée, c'est de le baisser. Là, aujourd'hui, il tourne à 18 nœuds en moyenne. Et c'est de le baisser à 12 nœuds en moyenne. 12 nœuds en moyenne, c'est vraiment pas mal. Hein, mais en Arctique, aujourd'hui, sur le passage du Nord-Est, on est à 12 nœuds en moyenne aussi. Donc, de fait, ce que je leur ai expliqué, c'est que si vous faites ça, vous allez mécaniquement renforcer la compétitivité technique des routes arctiques. Et donc, ce qu'on m'a répondu, mais non, mais c'est que pour le vrac, c'est pas pour les conteneurs. Oui, d'accord, mais même si c'est que pour le vrac, vous vous imaginez les conséquences. Donc là, ce sont des gens qui pensent bien faire par rapport aux routes du Sud, sans prendre en compte par ignorance, tout simplement, méconnaissance, ce qui peut avoir comme effet induit en Arctique.
Les effets, il y a des effets rebonds dans tout, et même à l'échelle individuelle. Vous avez un appartement qui est une passoire thermique. Votre facture d'électricité est dantesque quand vous vous chauffez. Donc globalement, vous avez froid. Vous investissez dans l'isolation. Quelle est la première chose que vous faites ? Ben finalement, vous ne chauffez pas forcément beaucoup moins qu'avant, mais vous gagnez en confort. Et donc des effets rebonds, il y en a à toutes les échelles, et il y en a aussi aux échelles individuelles.
Merci beaucoup. Je pense qu'on peut applaudir nos invités, nos intervenants de l'après-midi. Je vous invite, si vous avez du le temps, et ça, je pense que oui, ça sera pour assister à la visite guidée de l'exposition de Michel Ravicky. Alors, c'est à 17h15, place Guillaume II, et vous pourrez voir l'exposition avec le photographe.
Poser des questions.
Des questions, donc, et bien sûr avec les intervenants.
Je voulais juste...
C'est place Guillaume II, place Knuddler.
Juste derrière. Je voulais juste donner des bonnes nouvelles qui nous arrivent des États-Unis, parce que, bon, ça ne vient pas du mari de Daisy. Hein. Non, non. Non, j'allais dire une blague, je vais la dire quand même, elle est drôle. Il y a un contrat qui vient de se signer entre Elon Musk, quand même le patron de SpaceX et fabricant des Tesla, et Poutine, hein, pour construire des bateaux totalement électriques. Non, ce n'est pas vrai. Mais ça peut être un projet qui réglerait un petit peu. Non, non, la bonne nouvelle, c'est que, bon, peut-être un peu moins pour la presse française. Bon, j'ai sorti un livre qui est distribué à l'international aux États-Unis. C'est une grande chance, hein, qu'un Français puisse aussi exporter des ours là-bas, parce que c'est quand même un peu leur territoire. J'ai tous les deux jours une demande de répondre à un article, de réponse à un article Canada, Alaska, USA, avec des journalistes motivés qui posent des questions, des vraies questions, auxquelles je m'efforce de répondre avec des vraies réponses. Ce qui, malheureusement, n'est pas toujours le cas avec les magazines français, voilà, qui font appel à moi. Voilà. Juste pour dire que, voilà, il y a aussi beaucoup d'Américains concernés, motivés, à l'écoute des problématiques de climat.